Oui, merci, bonjour à tout le monde. Avant tout, merci pour votre invitation. Nous avons accueilli avec enthousiasme cette initiative de la Fondation Chamoun, qui reprend son activité, du moins pour ce qui est du type de divulgation, de messages, de présentation, de conférences avec l'extérieur, c'est-à-dire aussi au public. Disons que, bien évidemment, Chamoun, présente le symbole de la lutte antifasciste et qui est un peu le martyr de la cause d'Angleterre, qui a sacrifié sa vie pour les idéaux dans lesquels il croyait, est un peu le symbole de toute la Vallée d'Aoste. Donc, la Fondation Chanou qui se penche sur Chanou et sur l'actualité de sa pensée appliquée à un thème bien actuel, c'est-à-dire la lutte contre l'État totalitaire. Entre autres, dans un moment où la politique, surtout en Italie, à niveau national, vit un moment très mouvementé, avec des prises de position, de contraposition entre un certain mouvement populiste et la politique, il y a quelques symptômes qui rappellent la montée des totalitarismes, c'est-à-dire que souvent, quand il y a eu cette rupture entre politique et le peuple, il y a eu après l'homme fort qui s'est présenté sous forme justement d'État totalitaire. Donc attention, je le dis à nous tous, attention à ces moments de populisme et de rupture surtout entre politique et gens, car ils ont été souvent à l'origine de totalitarisme. Mais pour revenir à Chanou, l'état où se trouve l'Italie en général et disons aussi les vallées des Alpes en particulier pendant les années 40 a été très efficacement tracé dans la première partie de la déclaration de Chivasso et encore plus profondément stigmatisé dans les commentaires de Chanou. La dictature et le centralisme fasciste avaient entraîné par les vallées alpines, une dure oppression politique destructrice de tout foyer de vie et de liberté locale, la faillite de l'économie alpestre, l'anéantissement de la culture régionale et la dépersonnalisation de ces vallées qui étaient jadis si riches de traditions culturelles, politiques, administratives propres et, surtout pour la vallée d'Aoste, une tradition d'autogouvernement. Donc, disons que pas tous les mots sont arrivés avec le fascisme. Quelques-uns de ces mots remontaient au-delà de son avènement. Mais cet effondrement économique avait été accompagné par la volonté d'abolir toute forme de particularisme et par la destruction du patrimoine culturel, surtout à travers la Première Guerre mondiale, qui aboutit au bannissement des langues françaises, allemandes et slovènes. Bien évidemment, quant à la Vallée d'Aoste, la lutte contre sa langue débuta déjà avec la proclamation de l'unité italienne. C'est alors que Vegezio Ruscalla, député au Parlement italien, avait publié son pamphlet qui déclencha l'attaque à la langue française. Attaque qui se poursuit, parfois de nos jours aussi, mais qui à l'époque, bien évidemment, était aussi violente. Et disons souvent, si aujourd'hui on est en difficulté pour défendre le français, c'est car le français a, à travers toute une série de phases, été combattu et presque anéanti. Disons que la Vallée d'Aoste, après le détachement de la Savoie, était devenue un petit îlot francophone dans la marée italienne, mais la situation précipita avec l'avènement justement du fascisme. C'est une Italie qui était déjà piétinée par une monarchie formellement constitutionnelle, mais absolutiste et centraliste, dans les fêtes et l'Italie qui sombra dans la plus dure des dictatures, justement à partir de 1922 d'abord et du 1er janvier 25 avec la dictature officielle. À côté des tristement fameux décrets dictatoriaux, le gouvernement poursuivait une politique menue de dénationalisation de la Vallée d'Aoste, la création de la province entraînait un grand nombre de fonctionnaires étrangers, l'industrialisation menait une foule d'allogènes. La réaction de l'élite badotène fut quand même immédiate. Le 26 février 1925 se constituait le groupe d'action régionaliste, la jeune Vallée d'Aoste, qui su maintenir vivant dans les esprits les plus conscients l'idéal de la cause de la beauté. Cette même réaction, quelque peu assoupie pendant les années les plus dures de l'oppression fasciste, il faut l'avouer, reprit son élan au moment de la débandade italienne après le 8 septembre, c'est-à-dire après l'armistice. Et elle fut surtout, partie intégrante de l'un des animateurs de la Générale d'Ost, c'est-à-dire justement Émile Chanou, son vice-président. Chanou résuma l'état de servage du peuple valdôtain qui traça aussi le chemin de la résurrection valdôtaine dans ces magnifiques pages de l'Esprit de Victoire. D'un côté, une analyse critique de la situation, mais aussi un message d'espoir, quand il dit voilà que nous vaincrons. Et donc, d'un côté, l'envie de lutter, et de l'autre, l'envie d'organiser un pays dans lequel on croit et auquel on est terriblement attaché. Déjà après le 25 juillet, ces ferments s'étaient accentués, et Émile Chanou, qui rappelait sous les armes, se trouvait à cette époque à Chambéry, écrivait de là à ses amis pour les conseiller dans leur action et pour leur donner les ordres nécessaires. Après le 8 septembre, donc, Chanou reprit la tête du mouvement de libération et organisa les premières bandes armées. Désormais la résistance, la révolte armée à l'oppression nazi-fasciste. Cependant, cette lutte en Valle d'Aoste se réglait d'un autre aspect, c'est-à-dire, justement, Chanou et ses amis ne voulaient pas simplement reconquérir, retrouver la liberté, mais ce qu'il est en tête, c'était surtout la reconquête complète et définitive des droits des valdôtains, des droits linguistiques, ethniques, de toute la minorité valdôtaine. Donc, il est nécessaire pour Chanou et les autres de penser à quel régime politique et administratif il faudrait donner à la future Italie et par là, justement, au Valdôste. Donc, dans la dichiarazione dei diritti delle popolazioni alpine, Chanou débute par une série de considérations, c'est-à-dire la liberté de langue et de culte ne peut être sauvegardée que par une autonomie politique et administrative. Seulement une organisation fédérative peut faire renaître la nation italienne et garantir le développement spirituel et économique des différentes régions. Et en conclusion, pour empêcher le retour de la dictature, il faut une ample autonomie régionale et cantonale qui repose sur les principes du fédéralisme. Cette fameuse phrase, la célèbre phrase qui est présente dans notre Parlement, le Parlement valdôtain, il y a des peuples qui sont comme des flambeaux, était référée à la Suisse. Chanou hypothisait une Europe qui était comme l'était la Suisse, en grand. Et le paradoxe a voulu que l'Europe s'est constituée, la Suisse n'en fasse pas. C'est l'histoire qui nous joue des tours. Chanou réaffirme le droit à l'emploi de la langue du pays, dans la République, dans l'enseignement, dans les actes, dans tout ce qui est justement la vie de notre vallée. La défense en premier lieu de ce droit est tout naturel de la part du valdôtain qu'il avait vu si brutalement foulé par l'État centralisateur italien avant même par la dictature fasciste. Après Chanou, qui avait assisté impuissant à l'anéantissement du français en Valle d'Aoste, ou disons presque un anéantissement, ne se fiait plus à l'État, même s'il prévoyait que la future Italie aurait été régie justement en République. Pour cela, il demandait que ce droit essentiel fût non seulement reconnu par la Constitution de l'État, mais surtout garanti par les traités internationaux. Donc, ces petits peuples des Alpes qui ont des caractères ethniques, linguistiques, culturels et religieux bien différenciés et une longue tradition d'autogouvernement demandent de pouvoir être constitués en communauté politico-administrative autonome. Mais pour que leur pouvoir soit réel, Chanou réclame une autonomie complète en matière scolaire et culturelle, en matière économique et agraire, et dans les travaux et dans l'ordre public. Une autonomie qui, par la suite, a été octroyée, comme on aime bien le dire, à la Valle d'Aoste, mais qui n'est pas encore, non plus aujourd'hui, une autonomie complète. Chanou, par sa grande envergure, avait donc compris que le problème des minorités ethniques n'appartenait pas seulement à son peuple, mais à tous les peuples et à toutes les nations, justement les nations sans État. Toute la doctrine fédéraliste est exposée par Chanou de façon, je dirais, magistrale, autonomie, régionalisme, fédéralisme, dans le droit au respect absolu de la personnalité qui n'est pas, je cite, solamente dell'uomo individuo, ma anche dell'uomo organizzato nei diversi corpi sociali. Celui en effet que Chanou teorizzo se c'è un federalismo integrale che deve essere applicato a tutti i livelli, da tutte le branche della vita sociale, dal canton, dalla regione, dall'età, dall'Europa intera, e non solo dalla vita politica e amministrativa, ma anche dall'economia, dall'insegnamento, da tutti i rapporti sociali e da ogni struttura. Donc, la pensée de Chanouf est largement diffusée en Italie et elle eut certainement une portée considérable dans la réorganisation de l'État italien après la chute du fascisme et de la monarchie. Elle inspira en premier lieu la Vallée d'Ost dans ses revendications autonomistes et le Comité de Libération Nationale, le gouvernement provisoire italien dans leur premier projet pour satisfaire les aspirations et les droits du peuple valdonien. Il est indéniable que sur le plan économique et des structures sociales, la Vallée d'Ost a fait un progrès énorme qui n'aurait pas été possible sans l'autonomie, mais comme je le disais avant, d'un point de vue ethnique, la minorité valdôtaine a quand même reculé. Le statut d'autonomie n'a jamais été appliqué dans sa totalité et les compétences, et je dis les compétences surtout, je pense au domaine scolaire, ont été des compétences limitées. Donc, une culture qui s'est dépersonnalisée face à la globalisation avant tout et face à une lutte, disons, une lutte d'une langue minoritaire dans un État national que souvent il est déjà difficile de défendre par des mesures paritaires. Disons, une langue minoritaire se défend très difficilement par des mesures paritaires et égalitaires. Que ça a été très difficile et donc une langue que nous essayons de défendre par les moyens que nous avons et une langue que justement chaque jour nous essayons de sauvegarder. Chanouf nous avait indiqué un fédéralisme intégral, notre autonomie est quand même justement appauvrie dans trop de domaines. Chanouf nous montrait une fédération italienne de cantons et régions dans le cadre d'une fédération européenne, mais l'Italie est restée malgré tout un État centralisateur et, il faut le dire aussi, l'Europe peine à se retrouver. Trop souvent, ces mêmes minorités doivent défendre leur autonomie que l'État cherche parfois à grignoter à cause de certaines conceptions nationalistes et centralisatrices, encore en résumé. Et je crois qu'il faudra éliminer ces défauts en retournant à l'esprit de Chivasso et de fédéralisme et autonomie. C'est pour cela qu'un retour à Chanouf est à souhaiter, un retour à sa pensée, à sa doctrine, à son fédéralisme, à sa tolérance et à son respect pour les minorités, afin que chaque individu puisse s'accroître économiquement, culturellement et spirituellement, dans l'épanouissement de sa personnalité de citoyen et d'homme. Donc, c'est pour cela que je réaffirme les compliments à la Fondation Chanouf pour avoir organisé cette journée, que cette journée de travail soit profitable pour analyser l'actualité de la pensée de Chanouf et en relancer le principe de cet homme qui a sacrifié pour les idéaux dans lesquels il croyait ce que un individu a de plus important, c'est-à-dire sa vie. Merci.
Je remercie la société.